Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, on va faire une petite session de rattrapage avec tout plein de mangas des éditions Glénat. On aura par exemple la chronique du volume 2 de Ashikada The Iron Hero, la chronique du volume 9 de Ariane L'Empire Céleste, la chronique du volume 6 de Apo Sims La Planète des Marionnettes. On aura la présentation du manga Helio le Fugitif, la chronique du volume 3 de 100 jours avant ta mort. On aura également la chronique du volume 5 du manga Centaure et la chronique du volume 27 de Dee Greyman. En plus de ça, on aura un petit point sur les sorties manga de la semaine. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission, c'est Time Machine de Sphère, et on viendra juste après pour la chronique du volume 2 de Ashikada The Iron Hero. Donc c'était Sphère avec la chanson Time Machine. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Ashidaka The Iron Hero. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, fantasy, science-fiction qui a été écrit par Sumiyoshi Ryo et pré-publié dans le Gekkan Shonen Magazine. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 4 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 3 tomes de sortie. Ce volume 2 est paru le 7 avril 2021 au prix de 6,90€. Donc le résumé de ce tome, suite à sa confrontation avec l'armée anti-démon, une organisation créée pour anéantir le démon aux 100 bras d'acier, Ashidaka se retrouve au seuil de la mort. Alors qu'il est inconscient, l'un de ses armes se régénère à une rapidité anormale et échappe à tout contrôle. En se réveillant quelques jours plus tard, Ashidaka va apprendre qu'un nouveau mille-pattes géant est apparu, le démon bleu. Ashidaka et Geji se joignent alors à Unchi, le capitaine des forces spéciales pour l'affronter, mais ils sont bien loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Donc toujours dans une ambiance très proche de Gun et des autres titres de cyberpunk, Ryo Sumiyoshi développe son récit, mais sur un schéma un peu trop semblable au premier tome, dont il serait bon de s'éloigner. En effet, la construction du tome est la même, des combats impressionnants, des découvertes et des révélations sur l'univers avec l'arrivée de nouveaux personnages, et à nouveau la préparation de nouveaux combats. C'est un peu trop classique, car on a déjà connu l'auteur plus inspiré sur son autre série. De la même façon, ses dessins sont certes plus adaptés à ce récit, mais ils sont aussi plus lisses et perdant ce grain, ce charme qui lui était si particulier. Ashidaka a donc fait la rencontre de l'armée anti-démon qui questionne largement sa philosophie de vie. Cette confrontation va être riche en enseignements et en réflexions en tout genre, pour lui mais également pour eux. C'est la partie la plus intéressante à ce jour de l'histoire, l'auteur mélangeant des questions militaristes à des questions raciales et philosophiques sur la vie au sens large. C'est quelque chose qu'il maîtrise vraiment puisqu'on pouvait retrouver certaines de ses interrogations sous une autre forme et dans un autre décor, dans son précédent titre « Centaure ». Cela s'associe à des scènes d'affrontement et de ces démons particulièrement effrayantes où on a juste l'impression, sous le coup de crayon un peu flou et brouillon du mangaka, de voir des insectes métalliques se battre les uns contre les autres. Et quand on n'est pas fan des bêtes à pattes crochues, ça a de quoi filer des frissons tant l'horreur et la dangerosité de celles-ci sont bien rendues. En plus, Ryo Sumiyoshi interroge vraiment sur la frontière entre les hommes et les démons, tant ceux-ci sont proches aussi bien dans leur apparence première que dans les interactions et interdépendances qu'ils ont. C'est assez fascinant. Ce nouveau tome nous embarque donc dans les aventures hautes en couleurs et surtout viscérales du héros, qui voit sa vie sans cesse remise en danger, mais également celle de ses proches. Cette rencontre avec la résistance est fascinante et bien orchestrée, elle permet d'en apprendre un peu plus à la fois sur les créatures qu'ils combattent et sur les combattants eux-mêmes, même si l'univers reste encore plein de mystères. Cependant, le héros se voit confier un but, une quête, un rôle, et c'était ce qui lui manquait. Cela devrait donc rendre le récit plus fluide et facile à suivre pour la suite. Donc je rappelle que Ashidaka The Iron Hero est disponible pour le moment avec 3 tomes de sortie aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Vibrato de Stellar, et on viendra juste après pour la chronique du volume 9 de Ariane, l'Empire Céleste.
Don't go back on up. 틀림없지 근데 너 불면증 없는 내 잠이 안 와 내 맘이 미끈 어쩌가 머리가 없지 너무 욕어 나답지 않게 왜 이래 어떡해 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 너무 욕어
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
c'était Dropping Melodies de Stereo Dive Foundation. On passe maintenant à la chronique du volume 9 de Ariane, l'Empire Céleste. Je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, science-fiction, qui a été écrit par Yagi Norihiro et prépublié dans le Shukan Shonen Sunday. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 15 tomes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 11 tomes. Ce volume 9 est sorti le 16 juin 2021 au prix de 6,90€, et je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Donc le résumé de ce tome, la princesse Léana et l'Achille, son chevalier de l'Azur, arrivent à Arknemi, la ville du peuple Panzer. Mais les voici barrés par un ennemi auquel ils ne s'attendaient pas. Pendant ce temps, un nomade, un groupe de jeunes gens se faisant appeler les 11 disparus, sème la panique avec leur énergie photonique. Les voici pourchassés à la fois par la famille Bosso qui a la main mise sur la ville et par une unité spéciale chargée d'éliminer les disparus, les Cœurs de Lion. Le conflit dans lequel l'Achille et les détenteurs de photons sont impliqués s'accélère. Donc l'Achille, la princesse Léana et la vice-capitaine Daiva sont enfin arrivés jusqu'à Arknemi, la cité du peuple Panzer, un lieu énigmatique où ils ont déjà dû se frotter à quelques surprises entre la façon particulière d'y pénétrer, l'aspect désert des lieux et une première rencontre intrigante sur place, d'autant plus intrigante qu'elle met désormais notre héros à l'épreuve. Le Panzer rencontré a effectivement provoqué l'Achille en duel et est bien décidé à le pousser à se battre de toutes ses forces, quitte à employer tous les moyens. La raison que notre héros lui prouve à quel point il est vivant, mais aussi quelles sont ses motivations profondes. Dans ce lieu aussi changeant qu'étonnant qu'est Arknemi, ce volume démarre donc par un nouvel affrontement qui n'a toutefois pas les mêmes enjeux que les combats habituels, car si l'adversaire de l'Achille n'hésiterait pas à provoquer la mort de notre héros s'il n'est pas jugé fiable, son but n'est pas purement hostile. Dans les faits, cela donne un combat mi-figue, mi-raisin. D'un côté, le rendu de l'action reste toujours aussi limité, que ce soit dans le trait, dans le découpage, dans les angles. Tout reste assez simpliste, Norihiro Yagi n'ayant toujours pas retrouvé la fougue et les envolées de sa précédente série Claymore. Mais d'un autre côté, il y a bel et bien des éléments intéressants, que ce soit dans l'identité de l'ennemi que l'Achille affronte, ou dans ce qui se passe du côté de Léana et de Daiva pendant ce temps-là. La princesse et son chevalier servant sauront-ils faire montre de la valeur qu'Arknemi attend d'eux ? À l'arrivée, une chose est sûre, ce passage vaut le coup, surtout pour la compréhension par Léana et par l'Achille de ce qu'ils recherchent dans leur périple. En revanche, on regrettera que l'immersion au sein de la cité du peuple et du peuple Panzer en eux-mêmes reste si limitée, malgré des idées très intéressantes comme l'absence de réelle individualité au sein de ce peuple atypique. Après tout ça, les deux autres groupes de héros toujours sur le chemin pour rejoindre Arknemi ne sont pas oubliés, mais leur parcours reste vite vu dans ce tome, Norihiro Yagi ne s'embarrassant pas trop d'épreuves supplémentaires et faisant bien vite se rejoindre tout ce petit monde. L'ensemble est donc succinct, mais cette séparation ne fut pas inutile, en ayant notamment permis l'arrivée de deux compagnons supplémentaires en Caligula et Azan. Mais sans doute restera-t-on plus intéressé par la découverte un peu plus prégnante du groupe des Sept Lames, où l'on voit bien les deux camps se distinguer l'un de l'autre. Après tout ça, il ne reste plus à notre groupe de héros qu'à reprendre sa route en direction d'une nouvelle étape, une nouvelle ville, nomade, où ils espèrent bien retrouver la trace d'un ou plusieurs autres disparus. Mais pour nous immiscer en ce nouveau lieu, l'auteur propose une dernière partie de tome assez étonnante, dans la mesure où elle nous éloigne de l'Achille et des autres pour nous plonger aux côtés d'un autre groupe surprenant, les 11 disparus, des jeunes gens se faisant précisément passer pour l'Achille, Caligula et les autres. Au programme, une petite affaire où le groupe se retrouve pris en tenaille entre une bande de loubards et une famille mafieuse, et où, tout en ayant conscience que la majorité d'entre eux sont des imposteurs, on devine également bien qu'il y en a peut-être un ou deux qui sont effectivement de vieilles connaissances de l'Achille. Affaire à suivre donc, mais en attendant, ce 9e volume redresse un peu la barre après un tome 8 un peu soporifique. Norihiro Yagi, certes, n'arrive toujours pas à apporter l'ampleur supplémentaire tant espérée, mais au moins il se passe un peu plus de choses. En tout cas, suffisamment pour ne pas faire lâcher la série. Voilà, donc je rappelle que vous pouvez retrouver Ariadne, l'Empire Céleste, aux éditions Glénat avec pour le moment 11 tomes de sortie. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Boku no Ita Shizu de Strawberry Song Orchestra, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 6 de Apo Sims, La planète des marionnettes.
気質無透明な人間だった。そんな僕が真っ白な地図の上に立っている。そこにはガラスが張り巡らされた戸籍などなく、嘘もなく抑圧もなく、汚れた大人になるのを拒んだ両手で顔を覆い隠した子供たちが足並みを揃わせて真っ白な地図の上を歩くのであった。子供たちは目指したイドリーシーが手招く淡い色の幻想への扉へと、瓦礫と化したグランドピアノの怨念が漂う前に僕だけの地図を描く。
Donc c'était Strawberry Song Orchestra avec la chanson Boku no Ita Chizu. On passe maintenant à la chronique du volume 6 de Apo Sims, La planète des marionnettes. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action-drame-science-fiction qui a été écrit par Niyai Tsutomu et prépublié dans le shonen Sirius. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 9 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 6 tomes de sortie. Ce volume 6 est paru le 21 avril 2021 au prix de 7,60€ et le volume 7 est prévu pour tout bientôt, le 19 janvier 2022. Donc le résumé de ce tome, terré dans les souterrains, Keisha et Titania se démènent pour ressusciter Esro, mais l'Empire s'est lancé dans un plan impliquant de nouveaux réincarnés et un code artificiel afin de mettre la main sur les BAM. Pendant ce temps, Kajiwan ambitionne toujours de prendre le contrôle de la surface à l'aide de son culte. Donc il y a de tout dans ce volume, des révélations cruelles sur Tatsushima, un nouvel allié pour le groupe Desso, des grands puissants qui s'affrontent et des personnages principaux qui tentent de survivre au milieu de tout ça. La subtilité n'est pas toujours de rigueur, il faut bien se l'avouer, et certaines transitions auraient mérité un peu plus de fluidité. Néanmoins, les surprises sont très efficaces, l'histoire avance bien et l'action fait également plaisir à voir. Tout cela ne manque ni d'intérêt ni de tension et le scénario reste divertissant. Quant au dessin, même si le mangaka nous a déjà offert des planches plus fournies en décor, l'ensemble tient bien la route et les personnages ont beaucoup de charisme. Un sixième opus bien plaisant donc, et je rappelle que ces 6 tomes sont à retrouver aux éditions Glénat, avec le volume 7 qui est prévu pour mercredi 19 janvier. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Elevator de Stray Kids, et on viendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
내 삶은 밑바닥 나다랗지 어두운 터널 속을 꺾고 있어 내게 잔인하고 두려운 하루를 홀로 버티고 있어 멀어져가는 현실복도 낯선 길 위에 지치리도 복도 없이 내가 맞는 길을 가는 가에 다 팔지도도 하나 없어 위로 가는 길은 절대 다시 뒤로 가기 싫은 막막한 미로 야피는 무대 신 피땀 흘리면 나를 빌어 너 사람들은 내게 말해 그 정도의 고비는 지나가는 소나기라고 성공을 낳으라면 두려워도 실패라는 덧칼라고 그래 나는 고통이란 믿기를 더 성문지 방황하는 거야 지친 열정의 날개를 잠시 접어둔지
더럽지 어둠 터널에서 울려고 있어 내게 잔인하고 두려운 나를 홀로 버티고 있어 목소리를 밀어도 날 잡아줄 사람은 아무도 없어 내 앞은 내 눈물을 타고 위로 빠져나가고 있어
하나없이 차가워 말들 분홍털을 꿈은 좀 접어 포기란 말들이 내 길을 따라가며 절망감만 커져가 희망이란 하늘을 주변 사람의 손으로 가린다
나 살려 기도하며 버티고 있어 나 째려보는 짜야운 시선들이 실성하지 않은 말을 잘 들어봤자 누군가의 광대 너와 내야 남은 넌 가수라는 직업은 집어치워 그 말을 들으며 약해져만 가는 내 자신을
넘쳐 저렇지 어둠 터널에서 울고 있어 내게 잔인하고 두려운 나를 홀로 버티고 있어 목소리를 밀어도 날 잡아줄 사람은 아무도 없어 내 아픔 내 눈물을 타고 위로 빠져나가고 있어
어둠 속에 갇혀있던 나를 끌어내 좀 더 빠르게 이것을 run away. I'm on the elevator. 난 올라갈게.
어두웠던 내 과거 탈출해 내 깜깜했던 앞길을 비춰 미쳐버릴 듯 지겨운 시간이 젖어버릴 때 네 길을 뛰어
랩은 나던 새로운 시작에 종소리가 울리며 나는 놀라타지 내 손을 작은 펜트하우스로 데려다주 my elevator.
Donc c'était Stray Kids avec la chanson Elevator. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties pour mercredi 19 janvier avec chez Delcourt Tonkam le volume 2 de Alice in Borderland Retry, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 3 de Légende Vivante. Aux éditions Glénat, j'en parlais tout à l'heure, on aura la sortie du volume 7 de Aposims, La planète des marionnettes, le volume 5 de Helio le fugitif, qui sera le dernier tome de la série, le volume 5 de L'Oxalis et l'Or, le volume 4 de L'École emportée, le volume 2 de Réimp et le volume 16 de Tokyo Revengers. Aux éditions Meiyan, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de AAR/MS, Augmented Reality Multiple Survive. On aura le volume 3 de RM in the Fantasy World Dungeon, le volume 2 de The Most Notorious Stalker, les volumes 1 et 2 de Toho Forbidden Scrollery, et le volume 5 de Unsung Cinderella. Aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 5 de Awakoi, qui sera le dernier tome de la série, le volume 7 de Koifulu Colorful, le volume 5 de Promesse en Rose, et le volume 11 de Sido, la réédition 2021. Aux éditions Nobinobi, on aura la sortie du volume 1 de Beethoven, les volumes 1 et 2 de Orimiya, et le volume 3 des Fées, le Roi Dragon et moi, en chat. Ensuite, aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 7 de Blue Period, le volume 13 de Magical Task Force Asuka, le volume 22 de Sayonara Monsieur Désespoir et le volume 11 de Spirit Seekers. Aux éditions Casterman, on aura la sortie du volume 3 de Fenrir, la sortie du volume 1 du Monstre d'Einstein et le volume 7 du Vieil Homme et son Chat. Et enfin, aux éditions Kazé, on aura la sortie du volume 44 de Initial D en partenariat avec Asuka, et le volume 30 de Skate Dance. Pour jeudi 20 janvier, ensuite aux éditions Omake Books, on aura la sortie du volume 2 de Ban le Bouzeux, le volume 3 de Blackboard qui sera le dernier tome de la série, et le volume 6 de Many Reasons Why. Aux éditions Kiwon, on aura la sortie du volume 5 de Bâtard qui sera le dernier tome de la série, le volume 7 de Death Mount Death Play, le volume 24 de Golden Kamuy, et le volume 11 de Isaac. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 8 de Don't Fake Your Smile, le volume 3 des Sorcières de la Fin du Monde qui sera le dernier tome de la série, et le volume 1 de Poison Quotidien. Aux éditions Michel Lafon, on aura la sortie du volume 3 de La Peste, et le volume 1 de Nina du Royaume aux Étoiles. Et enfin, aux éditions Le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 1 de Shit Chofu, et le volume 6 de Tokyo Tarereba Girls. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 21 janvier avec Shekana, le volume 7 de Astro Boy, le volume 12 de Atoms The Beginning, le volume 21 de Fire Force, le volume 11 de Gamaran, le tournoi ultime, le volume 3 de Shaman King, The Superstar, le volume 10 de Smoking Parade, qui sera le dernier tome de la série. On aura également le volume 9 de Un Petit Ami Trop Parfait, le volume 1 de V2 Panzer et le volume 7 de Yawara. Les dernières sorties, ça sera aux éditions Vega Dupuis avec le volume 9 de Birdman, les volumes 1 en édition normale et en édition deluxe de Team Phoenix, et on aura enfin la sortie du volume 8 de Zozo Zombie. Voilà, c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Imitsu Kesha de Suga Shikao, et on reviendra juste après pour la présentation du manga Helio le Fugitif.
ね、君の知り合いで政治家とかそういう人に顔が利く人っていない今度紹介してほしいんだ薄汚れた声 この世界救うため僕と秘密結社を作らないか地元の友人で風俗で儲けたやつがいて金のあてはきっとそれでどうにでもなるとも薄汚いこの世界塗り替えるすごい秘密結社を作らないか
愛と夢と希望に溢れてる日々っていいじゃない悲しいニュースなんて
聞きたくもないってそう言ってたじゃない奴がいるんじゃない。
いないことないけど、今更戻りもならないし。
それ名前と住所ってすぐわかる。まずは近い奴から成敗しよう。味とは今んとこ、辛抱きたあたりがいいと思う。雑居ビルくらいがちょうどいい間違いだらけのこの世界をぶち壊すためにさあ立ち上がろう、
hey! いつか自由になって素晴らしい日々を謳歌しよう
C'était Suga Shikao avec la chanson Imitsu Kesha. On passe maintenant à la présentation du manga Helio le Fugitif, du titre original Tobosha Helio. Donc c'est un shonen de genre action historique horreur qui a été écrit par Osokawa Masami et prépublié dans le Shokan Shonen Champion. La version japonaise est parue en 2019 aux éditions Akita Shoten avec un total de 5 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 7 avril 2021 aux éditions Glénat avec pour le moment 4 tomes de sortie. Donc vous pourrez retrouver Elio le Fugitif dans le commerce pour un prix de 6,90€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, la série est pour public averti à cause de la violence, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc des combats sanglants pour la couronne de Castille. Libéré de la sordide prison de Eldorado, après y avoir vaincu 1000 prisonniers en combat singulier, Elio sauve Lara, une jeune fille de la noblesse sur le point d'être exécutée. Tous les deux partent ensuite en cavale, sans se douter que les origines cachées de Lara vont chambouler leur destin. Pour survivre, Elio doit fuir, le royaume de Castille dans l'Espagne du XIVe siècle est donc le théâtre d'un drame historique où les combats et les complots font rage. Donc à savoir sur l'auteur, Masami Osokawa est un auteur déjà bien confirmé au Japon, mais il traitait jusque-là de thématiques furio ou de baseball. Pour sa première incursion dans un univers européen, il réussit le pari d'installer Elio, un personnage principal dans les codes du shonen, dans une Castille médiévale où les mœurs sont bien différentes. De belles scènes d'action et des personnages hauts en couleur vous feront voyager en compagnie d'Elio et Lara dans cette série en 5 tomes. Donc vous avez pour le moment 4 tomes à retrouver aux éditions Glénat et le tome 5 est prévu pour mercredi. Voilà. Du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est les Sleepy de Sugar, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 3 de 100 jours avant ta mort.
Let's go.
Donc c'était Sugar avec la chanson Sleepy. On passe maintenant à la chronique du volume 3 de 100 jours avant ta mort. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre comédie, drame, romance, vie scolaire, tranche de vie, qui a été écrit par Mugihara et prépublié dans le Mangami. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 6 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 5 tomes de sortie. Ce volume 3 est paru le 16 juin 2021 au prix de 7,60€. Le résumé de ce tome, malgré ses efforts acharnés, Taro ne réussit pas à stabiliser l'espérance de vie d'Umi. Itsuki est mal à l'aise de le voir se démener de cette façon. Va-t-il révéler à Umi le terrible avenir qui l'attend ? Et soudain, un soir, Umi disparaît. Donc une page se tourne dans la série 100 jours avant ta mort, on remarque que l'on arrive pile avec ce tome 3 à la moitié de notre histoire d'amour. Et il faut avouer, ce manga ne ressemble à aucun autre, en particulier celui-ci. Les personnages secondaires vont donner un tout autre ton à l'ensemble. Donc on s'est plutôt concentré sur l'histoire d'amour et de survie entre Taro et Umi jusque-là. Ici, dès le départ, on se concentre plutôt sur Itsuki, le beau garçon au pouvoir divin. Il a l'essence ultra développée et il pourrait prédire l'avenir en touchant juste votre main. Évidemment, ce ne serait pas drôle si tout était clair comme de l'eau de roche. Donc finalement, il aura une vision assez brouillonne concernant l'avenir de la jeune condamnée à mort. Déjà que dès le premier chapitre, il paraît détestable. Mais là, il ne fait rien pour arranger les choses, car cela remet le jeune prétendant en cause. C'est à cause de lui d'ailleurs que Taro a l'idée de s'éloigner de sa bien-aimée dans la deuxième partie du manga, une idée qui semble saugrenue lorsque l'on sait que chaque heure compte, puisque la petite perd une journée de vie à chaque fois que le jour se lève. Mais qui sait, peut-être qu'en fait c'est lui le véritable problème, un miracle pourrait-il enfin éclore ? On peut vraiment les décrocher l'un de l'autre ces deux-là ? Eh bien tout cela pourrait mal finir, car en attendant, la petite Minori se rapproche de plus en plus du jeune homme lors d'un jeu parsemé de défis à la professeure Layton. On se demande même à un moment si on n'est pas en train de nous concocter une autre histoire entre eux pour quand Umi ne sera plus de ce monde. Non, on ne peut pas penser ça, ce serait vraiment trop horrible, mais ici c'était vrai. On brouille les pistes donc dans ce volume infernal, heureusement il y a les dessins tout mignons pour nous envoyer du rêve et du baume au cœur. Et on en a bien besoin car les jours passent et on se demande bien comment tout cela va finir. Et c'est ça qui est génial. On ne peut pas deviner la fin de ce tendre manga. Seul l'avenir nous le dira, en espérant que ce ne seront pas les révélations brouillonnes d'Itsuki. Voilà, donc je rappelle que 100 jours avant ta mort est à retrouver aux éditions Glénat avec pour le moment 5 tomes de sortie. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Desire de Suicide Heaven. Et on viendra juste après pour la chronique du volume 5 de Centaure.
Thank you.
Donc c'était Suicide Even avec la chanson Desire. On passe maintenant à la chronique du volume 5 de Centaur. Je rappelle que c'est un seinen de genre fantastique historique qui a été écrit par Sumiyoshi Ryo et prépublié dans le Matto Grosso. La version japonaise est parue aux éditions East Press avec un total de 6 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 6 tomes. Ce volume 5 est sorti le 17 mars 2021 au prix de 7,60€. Le résumé de ce tome, les centaures vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Matsukaze, enfant, apprend ce que signifie vivre et devenir grand et fort au sein de la nature si changeante, si exigeante, si puissante. Quant aux humains, il suffit juste de ne pas trop les approcher. Alors pourquoi tout d'un coup ? Eh bien, découvrez ici le passé mouvementé des héros de Centaure. Voilà, donc pendant un temps, des rumeurs affirmaient que le manga Centaure s'était achevé avec son quatrième volume, chose qui n'aurait pas été surprenante puisque le tome 4, correspondant à la fin du deuxième cycle de l'œuvre, apportait une conclusion tout à fait satisfaisante. Mais il s'avère que Ryo Sumiyoshi, tout en lançant en parallèle au Japon le manga Ashidaka dont j'ai parlé tout à l'heure, a poursuivi son autre œuvre sur demande des fans, mais aussi pour son propre plaisir. C'est ainsi qu'un troisième cycle de 2 tomes a vu le jour, avec des volumes 5 et 6 qui sont parus au Japon simultanément, au mois de juillet 2020. Donc sorti en France en mars dernier, donc environ 1 an et demi après le volume 4, le tome 5 entame donc le troisième arc de la saga, et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une suite, puisque, au contraire, Ryo Sumiyoshi propose de nous plonger dans le passé. Plus précisément, cette préquelle nous propose de découvrir le passé du charismatique Matsukaze, personnage phare du premier cycle, donc des tomes 1 et 2. Un père aussi vaillant qu'aimant qui, pour le bien de ses proches, n'avait pas hésité à se sacrifier face à la folie cruelle des hommes. On commence alors par découvrir un Matsukaze enfant, soigneusement élevé par son père Aguri et sa mère Asahi, aux côtés de son frère Mochizuki. En compagnie de ce frangin, le jeune centaure n'hésite pas à s'aventurer dans la forêt, partant à la chasse, etc. Et il grandit ainsi dans un cadre chaleureux et aimant. Quand bien même, en toile de fond, les mises en garde sont incessantes vis-à-vis des hommes qui rôdent de plus en plus, encore plus depuis qu'ils se sont enfoncés dans leur querelle guerrière. Si la menace humaine se fait bien ressentir en filigrane, il faut attendre la fin du tome pour qu'elle prenne réellement son importance, dans une tournure des événements aussi épique que tragique, portée par un souffle tel que la mangaka nous en a déjà montré dans les précédents volumes. Mais avant d'arriver à cette fin de volume dramatique et intense, Sumiyoshi s'applique donc à décortiquer les grandes étapes de l'enfance et adolescence de Matsukaze pour un résultat tout aussi captivant tant il est riche et bien conçu. On découvre un paquet de choses prenantes, des détails réussis autour de visages déjà entrevus dans les cycles précédents, notamment concernant Ayame et sa rencontre avec notre héros, mais aussi la découverte de nouveaux personnages ou de personnages qui avaient été juste évoqués dans les précédents opus. On pense à Mikuniguro, qui a une personnalité sympathique et dont on découvre vite et bien l'arrivée dans le clan et sa position de grand frère pour Matsukaze, mais sans doute plus encore à Aguri, un centaure qui derrière sa sévérité montre surtout un désir profond d'être un bon père, apte à protéger et à bien élever ses enfants. Ajoutons à cela différents moments comme la tristesse face à la perte d'un bébé mort-né, ou encore les rapports entre frères parfois teintés de complexes, et on obtient un portrait de centaures qui, dans leurs émotions, dans leur façon de veiller les uns sur les autres, peuvent paraître bien plus humains que les humains eux-mêmes, à l'heure où ces derniers tombent dans la guerre et dans la cruauté. Un aspect qui rend les centaures foncièrement attachants, et la fin du tome d'autant plus touchante. Mais au-delà de tout ça, Centaure est une œuvre au fil de laquelle Ryo Sumiyoshi continue aussi de briller sur 2 autres points. D'un côté, ses habituelles qualités visuelles bien sûr, l'autrice se montre toujours aussi amoureuse des créatures qu'elle met en scène. Leurs déplacements peuvent être aussi élégants qu'imposants, leur anatomie reste toujours soignée jusque dans le ressenti de leur musculature. Les élans de verve ont quelque chose de très marquant tant la mangaka y apporte vivacité et expressivité. Et de l'autre côté, il y a toujours cette envie de décortiquer des mœurs, des habitudes de vie chez ces êtres. Leur apprentissage en montagne quand ils atteignent l'âge de 10 ans afin d'acquérir par eux-mêmes les techniques de survie, leur respect de la nature et du cycle de la vie, etc. Sans surprise, retrouver l'œuvre de Ryo Sumiyoshi est un régal de chaque instant. Passionnée, la mangaka conserve toutes ses qualités visuelles, met superbement en valeur les créatures qu'elle adore et présente avec beaucoup de force le passé du charismatique Matsukaze et de son entourage. Difficile donc de ne pas attendre avec impatience le tome 6 qui conclura donc le troisième cycle de la saga. Voilà, donc Centaure à retrouver avec pour le moment avec 6 tomes de sortie aux éditions Glénat. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. Alors, c'est Gumi Isoyo de Suki qui a servi d'opening pour le drama Bluebird's House. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec la chronique du volume 27 de Digreyman. Donc c'était Suki avec la chanson Gumi Isoyo qui a servi d'opening pour le drama Bluebird's House. On va maintenant finir l'émission avec la chronique du volume 27 de Digreyman. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre aventure, comédie, horreur, surnaturel qui était écrit par Oshino Katsura et prépublié dans les Shukan Shonen Jump, Akamaru Jump, Jump SQ et Jump SQ Crown. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 27 volumes, la série étant toujours en cours. et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 27 tomes. Donc ce volume 27 est sorti le 2 juin 2021 au prix de 6,90€. Le résumé de ce tome, Allen, toujours en fuite, a activé l'arche pour échapper à la congrégation de l'ombre. Il embarque malgré lui Kanda qui s'est précipité pour le suivre. Tous deux atterrissent dans un lieu qui n'est autre que celui où tout a commencé pour Allen. C'est en effet là que le petit Allen, qui travaillait dans un cirque comme homme à tout faire, a rencontré Mana qui jouait Pierrot le clown. Des liens très forts allaient bientôt les unir. Donc Allen, désormais accompagné de Kanda qui l'a retrouvé, sont tous les deux en fuite, tentant d'échapper à la congrégation. Ils finissent par tomber sur un lieu qui renvoie Allen bien des années en arrière, là où tout a commencé, là où il a fait la connaissance de Mana, bien avant tous les événements qu'on connaît désormais. Bon, y a-t-il encore des personnes qui lisent Dick Grayman ? Je ne reviendrai pas sur le délai abusivement excessif qui sépare deux volumes, laissant largement le temps au lecteur d'oublier ce qu'il s'est passé, surtout que l'attente n'en vaut pas toujours la chandelle. En effet, l'auteur nous donne l'impression qu'elle s'est perdue elle-même, et ne sait plus trop ce qu'elle raconte, ou du moins, ne sait plus trop comment le raconter. Et le pire ici, c'est que ce tome est vraiment agréable à lire, il est vraiment sympa. On plonge dans le passé d'Allen, on découvre son enfance atrocement douloureuse et injuste, on découvre comment il a fait la connaissance de Mana et comment ils se sont liés, et à l'issue de ce tome, il reste encore bien des choses à découvrir et c'est plutôt stimulant. On sait d'ores et déjà à l'avance que le prochain volume va reprendre ce flashback et rester sur cette bonne lancée. Dans ce cas, pourquoi râler ? Tout simplement parce que tout ceci arrive bien trop tard, que l'auteur tente de raccrocher les wagons alors que le train a déjà déraillé depuis bien longtemps. Ils ne sont plus très nombreux les lecteurs qui auraient adoré découvrir cela il y a bien des années déjà, ils ne sont plus là puisqu'ils ont déjà quitté le navire. Et pourtant, on pourrait prendre ceci comme un nouveau départ, une manière de tout reprendre à zéro, sur de bonnes bases, mais l'auteur s'est déjà tiré tellement de balles dans le pied que cela apparaît impossible de rattraper ses errances. En soi, on a donc un volume intéressant, prenant, presque touchant, qui vient apporter des réponses qu'on attendait et qu'on n'espérait plus, mais ils sont bien peu nombreux ceux qui vont profiter de ces réponses. Et paradoxalement, ce tome donne envie de reprendre le titre depuis le début, parce que Dick Grayman reste quand même une série qui tient à cœur, malgré ses quelques soucis. Voilà, donc du coup, on va pouvoir s'écouter le troisième opening de l'animé Dick Grayman, c'est Doubt and Trust, interprété par Access, pour finir l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour mon émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt !